Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai oublié comment on faisait l'intro,
tout va bien. Tu dis bonjour normalement. Et...
Salut, c'est Louis Pietrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bienvenue dans cet épisode spécial du son d'après, je suis Louise et comme toujours, je suis accompagnée de mon meilleur binôme, j'ai nommé Clément, salut.
Salut, salut.
On a le plaisir aujourd'hui, on vous avait prévenu, de recevoir un invité de qualité, c'est Paul Bonavès, bonjour.
Salut Louise, salut Clément, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, bienvenue dans le son d'après, merci
d'avoir ravis que tu sois là.
Accepté notre invitation. Tu es programmateur musical pour plusieurs festivals. Notamment We Love Green, enfin je vais les citer, We Love Green, Peacock Society, Rochella Bay et le tout nouveau Yardland.
Absolument.
J'en oublie pas.
Non, c'est déjà assez, non ?
C'est déjà pas mal, ouais, je pense.
Ah, j'imagine que ça doit bien t'occuper, ouais.
Oh, un petit peu.
Ouais,
putain. Le calendrier est bien rempli.
Et du coup, comme la saison des festivals ouvre bientôt, on s'est dit que c'était un excellent moment pour te recevoir et discuter avec toi de ton travail, mais aussi de qui tu es en tant qu'auditeur et mélomane. Mais avant de commencer à discuter, Clément, est-ce que tu peux rappeler le concept de ce podcast aux gens qui pourraient nous rejoindre au hasard de la vie, car ils connaissent Paul plus que nous ?
Évidemment, le son d'après, c'est un podcast de recommandations musicales où toutes les deux semaines, on ramène quatre morceaux qui nous ont particulièrement enchantés ces derniers temps. On présente les artistes, on en discute, on les écoute ensemble, surtout avec Louise, on en discute. Et ensuite, voilà, l'idée c'est d'augmenter vos playlists, de vous sortir un petit peu de vos zones de confort. Et voilà, on fait ça dans la joie et la bonne humeur.
Tout à fait, merci. Maintenant que on a repris les bases, on peut entrer dans le vif du sujet de ce podcast. Et on a toujours un peu la même question avec Clément pour commencer le son d'après avec nos invités. C'est est-ce que tu te souviens de tes premiers amours musicales, tes premiers souvenirs musicaux quand t'étais petit ?
Ouais, grave. C'est marrant parce que c'était, je crois que vraiment le disque que j'ai le plus écouté quand j'étais petit, c'était le disque de Tracy Chapman, notamment avec, je sais plus comment s'appelle le nom de ce disque, mais avec Talking About the Revolution,
ouais, Fast
Cars et tout. Ouais. Parce qu'en fait, on était partis en vacances à La Réunion avec ma famille et mon père avait qu'un seul CD dans la bagnole qui tournait en rond et c'était celui-là. Et ouais, je crois que c'est un des disques qui m'a le plus marqué. Il y avait aussi un truc genre Graines de Star, je crois, avec genre Lil Bowo. Avec qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait Willy Denze, il y avait MC Solar, il y avait plein de trucs chambés, R&B hip hop, ouais. Vraiment genre début des années 2000, ouais. Voilà, c'est un peu les deux disques qui m'ont bercé
trop bien
tout jeune.
C'est rigolo, c'est un beau ouais. Y a un bel écart entre tout ça, quoi.
Ouais, bah mon père était fan de soul et de black music et tout, okay. Donc tout petit à fond là-dedans, et moi bah évidemment ce que t'écoutes au collège avec tes potes dans tes Walkman, bah ça reste aussi, parce que du coup j'ai toujours les CD d'ailleurs chez WAM, c'est marrant.
Ouais, pareil, j'ai toujours l'album de Willy Denze personnellement. C'est une de mes fiertés.
Moi c'était un hit 97.
Ah ouais,
un hit 97, et pareil, je sais plus, bah avec les tubes de l'époque, quoi. Mais c'est rigolo, c'est ces trucs de compile, parce que j'imagine que là ce que tu dis, Graines de Star et tout,
c'est une compile, ouais.
C'est vraiment l'aspect compile. On y a beaucoup moins d'ailleurs aujourd'hui, je trouve.
Ouais, je crois qu'il y a plus rien.
Ça n'existe. En fait, c'est que ça sort plus de toute manière. On n'achète plus le CD.
Alors, détrompez-vous, car moi qui suis parfois DJ de trucs un peu mainstream et tout, et ben ça m'arrive de trouver des compiles. Il y a encore des compiles énergie et compagnie, quoi.
Ah oui.
Ouais, mais c'est juste plus des CD, mais je pense que ça existe encore.
Moi, ce que
j'adore, que c'est encore des CD, mais
ce que j'adore, c'est les nouveaux DJ producteurs qui reprennent en fait tous les tubes des années 2000, genre Mina, qui est une productrice anglaise, je crois anglaise, et qui a repris genre une playlist, enfin vraiment genre un CD entier de tubes des années 2000, et qui les a remixés un peu en mode dembow, reggaeton et tout, et genre
all,
en mode trendsoul, exactement, tu l'as, t'as la rêve, c'est trop bien. Et bah voilà, je viens de l'acheter sur Bandcamp il y a une semaine.
Il est trop cool. Ah ouais, il est trop bien. Bah elle fait, il y a des remixes de Soulja Boy, de trucs, mais vraiment, tu sais, genre Meet Her at the Love Parade, vraiment des trucs Eurodance et des trucs hip-hop, c'est très bien, moi j'adore Mina. En fait, j'aime bien cette espèce de trend de on revient aux années 2000, mais avec les sonorités d'aujourd'hui et tout.
Et on accélère faire le bordel. Et du coup, parallèle à ça, on était à un festival avec Anako, que vous avez reçu il y a quelques semaines, quelques mois.
Tout à fait.
Et elle nous a joué un remix de All the Things She Said. De Tattoo, en mode reggaeton, laisse tomber le bordel.
Voilà. Incroyable.
Voilà, allez écouter Mina sur Bandcamp.
Super. Alors, un peu les premières questions sur, qui vont venir, c'est un peu sur ta consommation, toi, perso, musicale. Genre, comment est-ce que tu écoutes la musique et tout. J'imagine qu'il y a une grosse partie qui est liée à ton travail de programmateur. Mais est-ce que tu as, toi, des amours perso, de trucs que tu écoutes pour le plaisir, chez toi, tranquille, sans penser au travail, tu vois?
Et ouais, il y a pas mal de trucs un peu chez pair. Pas mal de compiles ambiantes ou de, on va dire, genre dub un peu à l'anglais. Tu vois, avec des ouais, il y a ça, il y a pas mal de pop aussi un peu cheesy, tu vois, les Midnight Club, les trucs tu vois, qui sont les successions de Mac DeMarco, tout ça, tu vois, que j'aime bien écouter à la maison. Il y a beaucoup de reggae, j'écoute du reggae à fond, genre tout le temps. Le matin, je mets mon enceinte et je mets du reggae sous la douche, enfin voilà. Plein de trucs chelous aussi.
Et par curiosité, moi qui suis par exemple, tu vois, pas du tout un auditeur de reggae, t'écoutes des choses qui sont très actuelles parce qu'il y a une scène hyper vivante et que, en l'occurrence, je ne connais pas, ou est-ce que c'est des... un peu des classiques, ou est-ce qu'il y a un mélange de tout ça?
Je digue pas trop le reggae actuel. Je connais quelques artistes. Genre, vraiment, j'en ai sur les doigts de, enfin, sur les deux doigts de mes, sur les dix doigts de mes mains. Non, sinon, c'est le vieux roots reggae.
D'accord, classique.
Des années 80, fin 75 à début 90, quoi. Voilà. Okay. Et pas trop de digue de nouveau. Voilà.
D'accord. Ouais, mais
je suis pas à la page, en fait.
Je me suis fait cette, tu vois, on est là aussi régulièrement à essayer de découvrir un peu de la nouvelle musique et, voilà, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, c'est vrai que je n'écoute quasiment pas de reggae, ou en tout cas, c'est effectivement, ou sinon, c'est des vieux trucs. Et je me disais, tiens, est-ce qu'il y a des choses actuelles qui sortent? Moi, je pense que la seule ref que je dois avoir en reggae un peu actuel et français, c'est...
Bigarynx.
Exactement, merci, voilà, ouais, c'est Bigarynx, tu vois. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que j'ai pas tout ça, quoi. Et on parlait du coup de la musique, tes premiers souvenirs musicaux, mais est-ce que tu te souviens de ce moment où, justement, t'arrêtes d'écouter la musique de tes parents et c'est vraiment... ta musique à toi, celle que tu t'appropries?
Alors, c'était pas la mienne, c'est celle de mon grand frère.
D'accord.
Ah, que classique. Je me suis approprié direct. On était sur des gros classiques punk rock à la Limp Bizkit, à la Linkin Park,
System
of a Down, Papa Roach, tout ça, mais en même temps beaucoup de trucs un peu de surfeur, parce que je surfais, je skatais comme tous les gamins du lycée, enfin qui étaient proches de la mer, parce que j'ai eu la chance de grandir à La Rochelle, donc j'avais la mer. D'accord. Pas très loin. Ouais. J'avoue qu'à Paname, tu vas pas aller surfer tous les week-ends.
Non, c'est clair.
Donc du coup, pas mal de trucs genre Jack Johnson, d'ailleurs, qu'on programme cette année à Will of Green. Je suis très heureux.
Jack Johnson, j'en ai déjà parlé un petit peu rapidement ici. Moi aussi, j'ai des souvenirs de Jack Johnson.
Cette clique de surf, ouais. Soul, indie, ukulele cool. À fond, j'étais à fond là-dedans, wesh.
Trop bien.
C'est trop d'aballe. Je m'en rappelle, c'est des putains de souvenirs.
Ouais, puis en plus, ouais, j'avoue, avec le côté être à la mer, tu vis la vie de ces gars-là.
Ah, tiens, un peu plus que...
À La Rochelle, mais quand même.
Mais je t'avoue qu'on était plus sur du Blink 182, Sum 41, avec les petits traits noirs.
On est de la même génération, je pense que. Ouais, ça, je vois très bien.
Je pense qu'on se sait.
Et après, moi, personnellement, ce que j'ai vraiment commencé à écouter de manière très perso, c'est venu un peu plus tard, mais vraiment, genre, les Daft, très tôt, et mon frère détestait ça. Du coup, c'était un peu mon péché mignon à la maison. Voilà.
Ah. Donc, Daft. J'aime bien que les Daft Punk soient un péché mignon.
Ben non, mais c'était, enfin, à la maison, genre personne n'écoutait les Daft, donc du coup, ça, j'étais là, ah putain, j'ai écouté ça dans le Walkman d'un pote et tout, ou c'était peut-être le début des MP3, tu vois, et on arrivait, j'arrivais à acheter le disque et boum, on mettait ça à la maison et tout le monde était pas forcément content, mais moi j'ai kiffé.
Visionnaire.
Ouais, le gars était déjà là.
Ouais, c'est clair, évidemment.
Alors du coup, on va peut-être pouvoir passer à ton premier artiste. C'est Don Omar.
Don Omar, bébé, grave. C'est un...
J'étais ravie quand Clément m'a dit qui tu ramenais. J'étais en mode oh my god, trop bien. Trop hâte de parler de reggaeton.
Putain, Don Omar, c'est trop marrant parce que ça a été un artiste que mon cousin m'a fait découvrir quand il revenait d'un trip en Amérique du Sud, je crois que c'était genre la Colombie, si j'ai pas de bêtises, ou le Mexique. Et on partageait pas mal de musique. Enfin, il est italien, donc c'était beaucoup de musique italienne, ou de rap, parce qu'il kiffait à fond le rap. Et il est revenu avec cette musique-là en me disant, ouais, c'est faut que t'écoutes ça, c'est trop bien et tout. Et du coup, je sais plus quel premier morceau il m'avait fait écouter, mais je crois que, enfin, directement, je suis tombé sur Dale Don Dale. Ça m'avait genre ultra marqué à l'époque, et à chaque fois que j'étais content de montrer de la nouvelle musique à mes potes, ouais, je montrais Don Omar, Dale Don Dale, en mode tiens, moi aussi j'ai de la musique trop cool et tout, et voilà, et je balançais ça à mes potes. Et en fait, ce morceau, genre, il m'a toujours suivi, il va vraiment jusqu'à encore ce week-end, en fait. Genre, je parlais du festival tout à l'heure, mais ouais, ce morceau est encore passé, il est hyper actuel, et c'est un morceau qui est sorti il y a genre 20 ans, je crois, un truc comme ça.
Je pense, ouais.
Et j'ai dû le découvrir il y a 15 ans. Et
ouais, 2003.
Et du coup, en fait, à l'époque, c'était vraiment, tu sais, le reggaeton de cum, tu vois, duro de cum, ouais, et très testostéroné, tu vois. Et en fait, petit à petit, le féminisme dans le reggaeton a fait sa place. Mm-hmm. Et c'est un morceau que des fois je vois en teuf reggaeton actuel, enfin, j'étais au Mexique, j'ai encore entendu, et c'est que des meufs qui étaient sur le dance floor, ouais, et qui dansaient, genre, qui étaient en train de pérer sale, et c'était sur Don Omar, mais ouais, ce morceau, il est juste intemporel, ouais, et il réunit tout, en fait. Mm-hmm. Et du coup, voilà, c'est, vu que je kiffe à fond le reggaeton depuis quelques années, ce morceau-là m'a genre marqué, me suit tout du long, et du coup, je joue aussi de temps en temps, et il passe trop bien, et
trop
c'est de feu. Voilà.
Excellent.
Je pense que c'est une super bonne introduction pour qu'on l'écoute. Dale, dale, don, dale, pa que se muevan la yale, pa activar los anormales y al que se resbale, bote, dale, 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 don, dale, pa que se muevan la yale, pa activar los anormales y al que se resbale, bote, dale. Maquina, maquilla, no en esquina, como ron, que fina, ven, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla.
D'aller de Don Omar, c'est le premier choix de Paul dans cet épisode. Je suis bien sûr ravie, vous vous en doutez, chers auditeurs et auditrices qui avaient l'habitude de nous écouter, car moi et le reggaeton, ça fait un. À la base, tu penses que ton cousin t'a fait plutôt écouter un morceau de rap de Don Omar, et qu'en fait c'est la partie plus reggaeton, toi, qui t'a vraiment marqué, quoi.
Ouais, clairement, c'était juste une des nouvelles sonorités que j'avais pas forcément entendues jusqu'à là, ou à part des trucs très radio classiques, pas ouf, ouf. Cette rythmique, genre, avec des espèces de snares hyper, genre, marquées, genre, tac, tac,
ouais,
tac. Et du coup, ouais, genre, c'est resté en tête, et j'ai jamais décroché de ce morceau, ouais, jamais, jamais. D'ailleurs, toujours au moins une fois par mois, je l'écoute, tu vois.
Bah moi, en fait, depuis, ça va faire 4-5 mois maintenant, que je fais des soirées avec Jetlag, du coup, de le média de Robin, qu'on avait reçu dans ce podcast. Mmh. J'ai redécouvert aussi des morceaux que j'écoutais à l'époque. Genre, par exemple, Don Omar, moi, je l'ai découvert avec Dilley,
ouais,
qui est
carrément
quand même son gros
tube.
Un de ses plus gros tubes, je pense. Mais à l'époque, vraiment, quand j'étais ado, quoi, je me souviens écouter ça et me dire, franchement, c'est charmé. Et il y avait ça, il y avait Gasolina, tu vois, t'as écouté les gros classiques de l'époque. Et en fait, là, vraiment, en les passant en soirée reggaeton, ça donne aussi une autre ambiance, que j'ai souvenir, tu vois, de moments où, je sais pas, moi, j'ai vraiment un souvenir trop marquant et bizarre. Une fois, je faisais un blind test, j'assistais à un blind test, et passe Dilley de Don Omar, tu vois. Et moi, je suis en mode, Dilley, Don Omar et tout. Et autour de moi, tout le monde en mode, c'est quoi ce morceau? Et j'étais en mode, bah, quand même, vous voyez qui c'est. Et tu sais, où il y avait un espèce de truc de bah non, pas tant. Et en fait, j'ai l'impression que là, ces 5-10 dernières années, comme le reggaeton, c'est genre numéro 1 mondial, Bad Bunny, c'est.
Propagé comme
la
un
star
virus.
Et tout. Ouais, de ouf. Et donc, du coup, que tout revient et tous les gens commencent à faire genre, eh, mais oui, en fait, le reggaeton. Il n'y a pas que Gasolina de Daddy Yankee, en fait. Et du coup, c'est, je trouve qu'il y a vraiment un plaisir aussi de se dire tu peux retourner dans les vieux trucs et redécouvrir des trucs à chaque fois.
Il y a des balles de ouf. Il ouais, faut diguer les vieux classiques. Il y a trop de trucs de ouf.
Oui, parce que c'est sûr qu'en France, par contre, on a eu un prisme, je pense, très réduit. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est très lors de quelques singles et très mainstream et tout. Mais dont fait partie, à mon avis, par exemple, ce morceau. Parce que moi, là, en l'entendant, je me dis, je sais que j'ai déjà entendu ça... Oui, avant, et quand je dis ça, c'est pas que les 6 derniers mois en allant de temps en temps à des soirées jet lag, hein, c'était je me revois plus jeune aussi sur la piste de danse, tu vois, quand tu t'allais en boîte ou quoi, qui est ce type de morceau très dansant, justement. Et je suis pas étonné, tu parlais de rap, je trouve qu'il y a quelque chose de très lié de toute manière dans la manière dont
l'origine du reggaeton, c'est du rap, hein, de toute manière.
Oui, voilà, exactement, cette manière de poser, et donc je trouve que. La continuité, et c'est vrai que je te rejoins sur ce côté. Ah, en même temps, j'entends une sonorité vraiment nouvelle et que tu t'appropries petit à petit, quoi.
Ouais, puis elle est un peu dirty, tu vois, cette sonorité.
Ouais, tout à fait.
On avait, ça me fait, du coup, je pense que c'est là où mon cousin me disait, tiens, c'est un truc de rap, et en fait, il y a un truc un peu dur, tu vois, un peu genre, t'as envie de casser le dance floor, tu vois, quand tu l'entends, ouais. T'es putain, bam, 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 et du coup, genre, tes premiers tracks dance floor comme As, j'en ai. Enfin, j'ai pas pris des claques aussi fortes que ça. Voilà. Ouais.
Et en plus, tu parlais du fait qu'en effet, là, sur ce morceau, mais je pense qu'il y a aussi un peu la même chose sur Gasolina, c'est le fameux truc de ça se répond avec des voix féminines.
Absolument.
Qui sonnent vraiment néo-péléo de
exactement.
Ce qu'on écoute aujourd'hui.
Exactement. C'est ce qu'on se disait aussi en off, c'est qu'en fait, les voix qu'on entend un peu à la fin, je sais pas si t'écoutes Bad Gal, en fait, t'as genre à 20 ans d'écart, t'as exactement les mêmes petites bouts de phrases qui vont juste accompagner,
ouais,
tu vois, un refrain ou un truc comme
ça.
Et en fait, c'est hyper actuel. Ce morceau, il a 20 ans, mais genre, il est aussi actuel qu'un Bad Gal aujourd'hui, tu vois.
Mais ça rejoint, il y a pas longtemps, là, je parlais de Rauw Alejandro. Sur son album Saturno, il y a plein d'extraits de vieux morceaux, en fait. Et c'est pareil avec Rosalia sur Motomami. Il y a des refs à Plan B, il y a des trucs comme ça et tout. Et en fait, quand t'écoutes les nouveaux artistes du reggaeton, ben, comme on disait, ça a 20 ans, donc en fait, ça a le temps d'être... entre guillemets vintage, et donc du coup que les artistes qui ont grandi avec cette culture là les reprennent et en refont des nouveaux
absolument.
Trucs et du coup c'est genre toujours, moi je trouve ça toujours trop bien du coup derrière de pouvoir aller chercher les trucs à quoi ça fait référence
absolument.
Et tout, c'est trop ouf.
Oui, parce qu'en fait on pourrait, je trouve, là tu vois, il me venait le truc, mais c'est peut-être que la musique en fait elle a pas tant évolué que ça en l'espace de 20 ans, mais non, en fait c'est ça la logique, c'est que ce qui était populaire il y a 20 ans est repris aujourd'hui parce que les gens de la génération écoutaient ça et se la réapproprient.
Ouais,
c'est le cycle de la musique où on va toujours sampler ou de récupérer des vibes que nos darons avaient, tout ça, et ce sera et j'espère que ce sera
sur
genre
Mina, par exemple, tu vois.
Absolument, grave, et j'espère que ce sera toujours le même cycle et qu'en fait genre les artistes qui sortent de la musique aujourd'hui seront samplés dans 15 piges par des nouveaux gens des nouveaux artistes qui vont arriver avec une nouvelle vibe qui vont arriver à transformer ça, tu vois, genre le hip hop c'est ça, tu vois, tu prends la base de jazz, boum, t'arrives et tu kicks et en fait le hip hop a passé sur une autre vibe de rap et de trap et en fait c'est un cycle, et
ce qui est cool parce que je trouve
là,
qu'en même temps
cool.
ça vient donner des galons peut-être à une certaine musique, à des morceaux qui étaient à la base peut-être juste des tubes sur lesquels tu dansais l'été, tu vois, et qui n'étaient pas de la grande musique, que ça soit de la soul, mais tu sais, de la musique plus ancienne, quoi. Ce processus là de ressampler des morceaux qui sont sortis dans les années 90, tout d'un coup je trouve que t'as un autre regard sur les morceaux proposés.
Bah, en tout cas, moi, je sais que pendant hyper longtemps, après, moi, j'ai un daron qui est hyper fan de musique et qui a toujours été un peu jugeant sur qu'est-ce que moi j'écoutais, tu vois, quand j'étais ado et petite. Et donc, du coup, j'avais vachement ce truc de bon, bah, moi, j'écoute de la merde, tu vois. Et en fait, non, j'écoute juste la musique de ma génération et elle est valable aussi bien que celle de mon daron qui écoutait les Stones et je sais pas qui, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'est marrant de.
C'était mieux avant. Voilà.
Et en fait, du coup, juste, c'est aussi ça, je pense, c'est l'espèce de jugement sur la qualité musicale d'une décennie et tout. Enfin, c'est genre, il y a. Tu vois, moi, je kiffe les années 2000. Mais en fait, les années 2000, il y a à boire et à manger, il y a des trucs chamés et il y a des trucs nul à chier, mais comme dans toutes les décennies en fait. Il y a pas
c'est ça, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est la créativité d'aujourd'hui, tu vois, qui vont créer d'ailleurs le son d'après.
Exactement.
Mais en se servant des sons d'avant, ouais. D'arriver et de voir l'intelligence des artistes aujourd'hui, d'arriver à reprendre ça et les transformer dans un truc super futuriste ou pas, enfin très actuel. Mais en donnant, comme tu disais tout à l'heure, des nains de noblesse à certains artistes, à certains courants musicaux. Ouais, bah ouais. Classe, bravo les gars quoi. Et les meufs.
On en arrive comme il faut qu'on commence à parler de live et de festival, de concert. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de festival?
Ouais, moi je viens de La Rochelle, du coup bah, c'était les Francofolies quoi.
Ah, oui.
Je me souviens, je suis allé voir Trio. Quand j'étais dans mon époque, tu sais, Jack Johnson, dont on parlait
tout
à l'heure.
Bien sûr, totalement.
Ouais, j'étais allé voir Trio, et en vrai, c'était une putain de claque, c'était super. J'étais foncedé parce que mon frère et ses potes fumaient des ouinges, et donc moi j'avais genre 15 ans, un truc comme ça. Et du coup, par inhalation, j'étais super foncedé, j'avais vomi.
Ah
après le concert. Ouais, je vous jure, c'est pas des blagues. Et du coup, voilà. Donc,
c'est Trio, effectivement, j'imagine que c'était assez approprié aussi.
Voilà, il y avait des nuages de fumée, genre, waouh. C'était ouf. Et voilà, donc super memory. Sinon, j'ai un bout de ma famille qui habite en Bretagne. Et donc, du coup, le festival interceltique de Lorient a pas mal bercé mon enfance aussi.
Ah, ok.
Qui est d'ailleurs aujourd'hui le plus grand festival de France en termes d'affluence.
Ouais.
Et donc, c'est assez marrant de voir, genre, il y a une quarantaine de tentes avec des régions différentes et où ils jouent de la musique. Celte toute la journée, c'est complètement zinzin, mais c'est assez fun.
Ouais, c'est un délire. J'ai fait une fois je bossais pour un artiste qui s'appelle Sami Fati et qui fait lui qui est originaire, je pense, de Lorient ou en tout cas de Bretagne. Et donc du coup, il faisait lui, il joue du violon et il fait pas mal de trucs avec sa MPC et tout. Et du coup, ils avaient fait un truc l'orchestre de Interceltique qui faisait un truc avec Sami Fati. Et donc c'était mi musique électronique, mi musique celtique, c'était ouf.
Mais j'ai même découvert des artistes de ouf. Genre des galiciennes qui sont passées cet été là et qui avaient genre elles étaient 4 ou 5 et c'était vraiment juste de la voix et ça m'a fait penser genre à Rosalia ou à Marina Sati, une artiste grecque, genre vraiment, enfin j'ai pris une claque musicale de fou dans ce festival, genre vraiment c'est, des fois t'as des espèces de petites perles qui sont déposées ici, tu fais putain c'est ouf et c'est vraiment du coup des musiques très anciennes, enfin tu vois c'est des et du coup t'as pas mal de d'émotions en fait quand t'écoutes ces musiques là, donc c'est ouais voilà, il y a quelques claques à avoir. Voilà. Si vous êtes jamais vous balader à Lorient, à l'île de Groix cet été, passez au festival, c'est super cool.
On va un peu arriver à comment t'es devenu toi programmateur dans les festivals et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de t'as 14 piges, t'écoutes du son, t'es trop content à La Rochelle, jusqu'à aujourd'hui où tu programmes quand même 4 festivals différents. Quel a été un peu le cheminement, même si c'est beaucoup demandé en une question. J'imagine.
Non mais en fait ça, c'est assez marrant parce que ça a commencé. Moi j'ai fait mes études à La Rochelle et on s'emmerdait un peu. En fait, La Rochelle, c'est pas une ville qui bouge de ouf. Il y avait pas de club, il y avait pas d'endroit où tu peux écouter des bonnes musiques. Tu vois, on aimait écouter de la musique électronique un peu cool et tout. Et en fait, il y avait rien, aucune proposition, rien du tout. Donc, du coup, on a pris les choses en main, à capote. On a commencé à lancer des soirées. C'est devenu des événements assez imposants où on rassemblait 600, 800 personnes, faire des concerts où on a ramené des rappeurs, on a ramené des groupes assez cool. Des clubs cheval, des Bordy Nam Nam, des rappeurs comme A2H,
cool.
Des plein d'artistes un peu cool, diverses et actuels. On a commencé aussi à faire des after shows avec les Franco. Ça nous a donné un peu plus de visibilité. Après, je suis parti étudier à l'étranger où j'étais notamment à Londres et à Berlin, j'ai bossé là-bas aussi. Donc ça m'a donné pas mal d'envie de rester dans ce milieu, plutôt côté maison de disques et tout ça, où j'ai trouvé ça un peu cool de voir d'un prisme différent. En 2015, on a lancé le festival Rossella B avec deux potes à La Rochelle. C'était un peu la succession de nos événements rochelais, mais avec l'approbation enfin d'une mairie qui nous soutient et qui nous autorise à faire un événement à La Rochelle en plein centre-ville, sur le Vieux-Port. Les premières éditions, on était vraiment... casser les oreilles à tout le monde, mais on était super bien reçus en vrai. C'est un festival à taille humaine, au bord de l'eau, hyper cool. Et au fur et à mesure, on avait une programmation assez pointue déjà dès l'époque. Et au fur et à mesure, on souhaite toujours aller chercher des nouveaux artistes un peu niches, tenter des choses. Il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui marchent, mais on est toujours un peu dans l'expérimentation et dans le renouvellement aussi des offres. Alors on change beaucoup de lieux, c'est un peu la peine du festival, c'est que tous les 3 ans on est amené à changer de lieu, donc c'est un peu c'est un peu dur de s'installer dans le temps. Mais par ce biais là on m'a offert un poste à Wheel of Green à mon retour de Berlin en 2016, sur la partie plutôt image et communication. Et de fil en aiguille, en fait, j'avais toujours ce prisme un peu de la programmation depuis que j'avais 17 ans, où je commençais à faire mes teufs dans un sous-sol à La Rochelle, à aider Clément Meyer, qui est le programmateur historique du festival, à conseiller sur quelques choix. Après une courte pause où j'ai programmé un lieu qui s'appelait La Bamba, où on faisait pas mal de soirées assez chouettes. C'était vraiment l'entre-deux Covid, où en fait les festivals étaient à l'arrêt, donc moi je suis parti faire autre chose. Et juste à la suite de ça, quand les festivals sont remis en route, ma directrice Marie Sabot m'a souhaité que je rejoigne la programmation du festival, donc de Peacock Society, de Wheel of Green et aujourd'hui du dernier né qui s'appelle Yardland, un festival qu'on fait en collaboration avec Yard, le média. Donc un festival qui est basé, qui s'oriente sur les cultures rap, urbaines et afro, qui se passe le premier week-end de juillet et donc qui verra le jour pour sa première édition au parc de Choisy. Donc c'est juste à 15 minutes de Paris en RER, c'est assez proche, c'est assez facile d'accès. C'est d'ailleurs le même site que Peacock Society. Donc voilà, on a trois beaux projets en cours avec l'agence Wheel of Art et un projet en plus en parallèle à La Rochelle avec mes potes. Voilà. Voilà un peu le parcours. C'était long, je suis désolé.
Non, en même temps, c'était une question très large.
C'est ça.
mais trop cool, trop bien. Justement, je pense qu'on va pouvoir passer au son d'après et parler un peu plus de programmation.
Exactement. Alors, oui, c'est à moi de ramener du coup un morceau et je suis très content que tu sois là parce que.
Touchel. Non, tu me surprends de ouf. J'adore.
Écoute, justement, on va en parler parce que c'est assez drôle. Moi, en tout cas, si je dois résumer, je suis très content que tu sois là parce que j'ai quand même aussi fait beaucoup de festivals quand j'étais un peu plus jeune. J'avoue, j'ai un peu ralenti le rythme. Mais du coup, mes premiers souvenirs, toi, c'était du coup les Francopholies. Moi, c'était Solidays. C'était un peu pareil. Tu vois, j'ai grandi en région parisienne. Donc, l'un des festivals un petit peu facile d'accès quand t'es un peu jeune et tout, il y avait Solidays. Il y a eu ça. Ensuite, ça s'est étendu à des Dour en Belgique, à des Bestivals en Angleterre, qui est certainement peut-être le plus dingue que j'ai fait de ma vie. Et c'est vrai que ces dernières années, je suis un festivalier très récurrent de Wheel of Green. Je crois que j'ai dû rater peut-être une édition depuis que c'est lancé. Donc c'est voilà, j'avais hâte de pouvoir discuter avec toi. Et donc l'axe de choix de mon morceau aujourd'hui, c'était tiens, quel artiste, moi, si j'étais à la programmation d'un festival, quel artiste j'aimerais bien ramener, pas quelqu'un, une genre de tête d'affiche ultra connue ou quoi, c'est pas. Mais un petit artiste que je viens de découvrir qui est un peu. Voilà, qui est sympa. Et effectivement, je tombe sur Touchel. Alors c'est assez drôle.
Alors je sais pas si t'as réussi à lire leur nom sur l'affiche.
Et ben en fait, je l'ai compris en finissant cette chronique, tout à fait, tu vois.
Et c'est un truc de ouf.
En fait.
Sur la confirmation, donc on pensait annoncer Touchel avec des lettres classiques, comme on utilise pour tous les artistes. Et ils nous envoyaient en fait des sigles. Donc si sur l'affiche de Wheel of Green, vous voyez un nom que vous ne comprenez pas, c'est évidemment Touchel. Donc c'est des deux mecs barrés, complètement barrés, qui ont décidé de faire un pied de nez à tous les programmateurs de festival avec un nom qui n'est pas qu'on peut pas lire en fait.
Vraiment compris qu'à la toute fin, parce que sur leur chaîne YouTube, tu vois qu'effectivement il y a beaucoup de titres qui sont siglés. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais j'avais vu un nom un peu chelou sur la programmation de Wheel of Green avec des sigles. Et du coup, là, en essayant de décrypter, j'ai compris que tout ça était effectivement, voulait dire Touchel. Donc, à la base, si je me suis dirigé vers eux, c'est que j'ai beaucoup de très bons souvenirs en festival, que ça soit en rock, en rap ou en musique plus alternative. Mais je dois bien avouer que certainement, mes plus grands souvenirs de festival, c'est des longues nuits à passer un peu de scène en scène au gré des musiques électroniques. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de rendre hommage à toute cette culture qui t'amène jusqu'à 6 heures du mat où tu t'effondres dans ta tente 2 secondes, où la nuit va être courte, pas très réparatrice, mais
franchement satisfaisante quand même. Touchel, je crois qu'ils existent depuis 2018-2019. Moi, je les ai découverts vraiment récemment en écoutant Radio Nova. Et pour ceux du coup qui nous écoutent et qui découvrent, c'est un groupe masqué qui a une hype vraiment grandissante depuis quelques années, qui est adoubé par Fortet et Ross from Friends. Un peu à la manière d'un Fred Again, je prends le train en marche, du coup, avec ce groupe. Mais vous allez voir, pour ceux qui découvrent comme moi, je trouve que leur musique a toutes les qualités de ce que je pourrais attendre d'un bon live de festival, à la fois ce côté bien énervé de la basse musique pour emporter les gens et en même temps un côté assez léger et divertissant avec des ajouts de musique hyper pop ou nightcore pour l'aspect un peu fun et fête, quoi. Le nightcore, parce que moi je découvrais, c'est une musique électronique où le tempo est volontairement accéléré, un peu le phénomène TikTok qu'on voit, voilà, où toutes les voix sont un peu pitchées du coup. C'est ça le nightcore. Et donc, il y a ce côté un peu fun. Je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait de leur dernier EP qui s'appelle Lil Spirit. Le morceau s'appelle Mom is Calling.
Mom is calling. Would you like to answer?
Mom is calling. Would you like to answer?
Would you like to answer?
Mom is calling.
Would you like to answer?
Would you like to answer?
Would you like to answer?
Mom is calling. Would you like to answer?
Mom is calling. Would you like to answer?
Would you like to answer? Mom is calling.
C'était Touchel avec le morceau Mom is Calling. Bon, je vais pas te demander du coup si tu les connais, évidemment que c'est le cas. A priori, on s'est tous les trois bien ambiancés là-dessus.
Moi, je connaissais pas, par exemple.
Mais qu'est-ce que t'en as pensé, Louis?
Très cool. Ouais. Et ils ont un beau clip aussi, donc du coup, ça aide à se mettre dans l'ambiance de Zinzinade, je trouve.
Bah, c'est ça. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce morceau-là, c'est que je trouve qu'il y a un côté grande kermesse. Tu vois, très bienveillante, aimons-nous tous et pogotons ensemble. Moi, c'est ça qui
totalement
me
ça.
Donnerait envie, du coup, de les programmer en festival. C'est ce côté-là, ça donne envie, je trouve, de sauter dans tous les sens sur cette rythmique, tu vois. Puis j'aime bien les petits côtés un peu fou zinzin qu'amènent les voix électroniques, un peu pitchées, là. Ouais, c'est ça, c'est très divertissant et je trouve tout l'EP est dans cet ADN-là. Donc je vous recommande vivement d'aller écouter ça. Ouais, c'est ça, moi, ça me met dans un même état de bonne humeur et de joie que ce que j'avais pu raconter sur Fred Again, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Je vois que vous les avez programmés à Wheel of Green. J'allais te poser la question. Alors, du coup, c'est quoi une bonne programmation de festival?
C'est une bonne question. Je te retourne la question, ouais. En fait. Une bonne programmation de festival, ça dépend de ce que tu attends, en fait. Enfin, ça dépend de ce que les gens attendent réellement des festivals. Chacun a son appréciation et une appréciation différente. Moi, selon moi, c'est plein de surprises. C'est des artistes que je ne connais pas, que je vais aller découvrir, où je vais pouvoir effectivement prendre des claques sur des artistes auxquels je ne pensais pas aller voir, en fait, tout simplement, et juste me rendre compte que il y a plein d'artistes super que j'écoute jamais ou sur lesquels je ne tombe jamais sur les réseaux ou peu importe quand je me renseigne et quand je lis des trucs. Donc plein de surprises, une belle parité aussi dans la programmation, c'est hyper important, et surtout de la diversité dans les genres. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime spécialement des festivals qui sont très monostyles. J'aime justement des festivals un peu comme Wheel of Green où tu peux autant aller te mettre un truc hyper électronique néo-futuriste qu'un beau R&B hyper classe au coucher de soleil, qu'un live indie pop que t'attends depuis des années, et en même temps une scène genre rap futuriste. Et en fait voilà, en fait mon mood à moi, c'est de jumper de scène en scène, de voir ce qui se fait un peu de mieux, de enfin de mieux dans chaque style. Et voilà, juste de, et de laisser de la place un peu à la découverte, à la surprise et un peu au brin de folie, quoi. Et je pense que justement, dans une bonne programmation, il faut des artistes aussi foufous, un peu déjantés. Donc tu parles de Touchel, c'est un bon exemple. Mais cette année, on a aussi des artistes comme Yves Tumor ou comme Sad Night Dynamite, qui sont deux Anglais complètement timbrés. Et voilà. Et
on
moi,
j'ai vu à la boule noire.
Ouais, et bah, j'y étais aussi. C'était complètement fou. Ouais, voilà, justement, c'est des grains de folie comme ça que j'aime. Et avec des artistes classe, rare et où c'est un privilège aussi de les recevoir, ouais. Tu vois. Après, ça dépend aussi des échelles de festival, mais là, si on parle de Wool of Green, ouais. Voilà.
Et qu'est-ce qui change du coup dans l'approche, par exemple, d'une Selecta d'un festival à un autre ?
Puis si on parle d'autres festivals comme Peacock Society,
ouais,
par exemple.
Ouais, ça, parce que c'est vrai que Peacock, moi, je l'associe quand même beaucoup à des musiques électroniques.
À fond, c'est
voilà.
Ça.
Et du coup, est-ce que les paramètres changent par rapport peut-être au nom que tu dois ramener, par rapport. Je sais pas, en fait.
Il y a un choix qui est fait, enfin vraiment, la musique électronique, ça varie très très vite. D'une année à l'autre, il y a des styles qui changent, il y a des artistes, ça se consomme très rapidement. Donc en fait, j'aime pas le fait de programmer des artistes qui sont des artistes du moment, en fait.
Ouais.
C'est cool, il faut en avoir, il faut un équilibre, mais ça fait pas tout. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure aussi, donner des lettres de noblesse à des artistes qui ont imposé et qui ont battu pour un courant musical qui est underground pendant des années, c'est aussi bien de pouvoir justement mêler ces artistes iconiques à une jeune programmation, jeune et
entre guillemets plus actuelle, quoi, mais
jeune et actuelle, ouais. Tu vois, et qui justement pousse la musique vers un style un style néo-électronique, mais voilà, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Des projets live aussi, c'est toujours bien d'en avoir. En musique électronique, c'est un peu rare. On a souvent la facilité de programmer des artistes DJ. Je pense que le live, moi, c'est quelque chose qui me passionne en musique électronique. On essaie d'en programmer à minima 3 à 4 par jour quand même. C'est pas toujours facile, il y a pas toujours des lives qui fonctionnent au tarif et au budget, ouais, qu'on a, ou même des fois juste par rapport aux moyens techniques qu'on a, par rapport aux scènes ou aux écrans ou des choses, voilà. Donc du coup, voilà, on essaye de jauger un peu entre toutes les offres,
ouais,
qu'on a
ça.
Et qu'on reçoit.
Moi aussi. Je me dis la combinaison de tous les paramètres entre les horaires, les scènes, les cachets des artistes, qui joue quand, à quelle heure et tout, l'équation, elle doit être hyper difficile à gérer, quoi.
C'est marrant, c'est comme si tu dessinais un petit chemin, tu sais, en fait, pour un festivalier, tu te dis, bah tiens, qu'est-ce que cette personne-là a envie d'écouter, ouais, aujourd'hui. Donc du coup, tu fais un petit tracé, genre, ouais, il a envie d'écouter, tu vois, début de journée assez cool, détente, pas trop vénère. Ensuite, tu vas un peu l'amener vers un nouvel artiste un peu nouveau qui va découvrir, oui, ça va être cool. Ensuite, il va vouloir aller se rassurer sur un set un peu plus classique ou un live un peu plus classique. Voilà, ensuite tu vas le ramener vers un truc plutôt un peu plus brutal. La nuit tombée arrive, tu veux faire un truc en relation avec le soleil, le coucher de soleil, donc t'essayes de faire, ouais, un set un peu solaire, et ensuite hop, la nuit est couchée, donc du coup t'essayes de l'amener vers quelque chose de plus ravey, ou voilà. Ça c'est pour des festivals électroniques, et sur des festivals comme Wool of Green. Du coup, faut prendre les paramètres de plusieurs personnes, plusieurs types de festivaliers, ouais, et dire tiens, il faut pas mettre des artistes similaires à des heures, enfin, ouais, à les mêmes heures sur des scènes différentes. Il faut arriver à faire des espèces de petits jeux d'escalier de scène, ouais, en scène. Et du coup, c'est essayer de placer les artistes dans les bonnes cases, aux bonnes heures, pour, ouais, que justement chacun puisse avoir son petit parcours. C'est trop cool quand tu découvres une timetable, ouais, tu dis, ah, oh, tiens, je vais aller à 15h voir cette scène là à 17h je serai là, à 18h je vais aller manger, et à 20h je serai, ouais, sur ce live là à 22h.
C'est toujours l'angoisse, en fait, oui, en arrivant à un festival, c'est de voir la timetable et de se dire où les artistes que j'ai envie de voir, pourvu qu'ils soient pas en même temps, parce, ouais, que vraiment le dilemme, il va être horrible.
Si tu savais notre angoisse, nous, justement, à se dire, putain, il faut pas qu'on arrive à avoir ces deux artistes sur le, ouais, même créneau. Et nous, genre, c'est voilà, c'est le travail, c'est de pouvoir effectivement avoir un équilibre pour tout type de style à toutes les heures,
ouais,
et pas que tu mettes, voilà, deux artistes du même style en même temps. Et du coup, voilà, du coup, c'est un casse-tête chinois. Des fois, il peut y avoir des petits couacs où, en fait, justement, on n'a pas forcément le choix. C'est un artiste qui veut jouer à cette heure-là, l'autre qui veut jouer que sur cette scène-là. T'as pas le choix, c'est comme ça. Faites votre choix, les gars.
Alors, oui, bah, de toute manière.
Tu peux pas tout voir. C'est pas... De toute manière, il y a 4 scènes différentes qui jouent en même temps, donc tu peux pas faire. Tu peux pas te dédoubler encore, malheureusement.
C'est Et du coup, par curiosité, à quel point tes goûts influent du coup sur la programmation d'un festival ?
On est assez détaché des goûts perso parce que c'est pas forcément hyper productif. On fait surtout confiance à nos instincts, aussi aux retombées. On va beaucoup voir des lives. Entre la période de septembre à février, je pense qu'on regarde trois à quatre lives par semaine. Donc c'est bien d'écouter des artistes en stream, de voir des vidéos YouTube, d'avoir des recommandations des agents ou de certains amis ou des producteurs. Ou peu importe, ce qu'il faut c'est avant tout aller voir les artistes en salle pour être sûr effectivement de la qualité du live délivré. Il y a le goût, en fait l'appréciation, pas forcément le goût mais l'appréciation d'un travail de qualité, mais il y a aussi voilà, les facteurs, l'impact du following des artistes, est-ce que cet artiste là marche en France autant qu'à l'étranger, est-ce qu'il y a des bonnes retombées presse sur les albums. En fait c'est plein de petits indicateurs que nous on va en fait agréger et on n'a pas d'outils. C'est un ressenti, un feeling. On se dit bon voilà, ça, là on coche à peu près toutes les cases, on peut y aller. Après il y a effectivement des prises de risque, des fois ça passe et c'est un super coup, on est super ravis, et des fois c'est des petits échecs, mais de toute façon il y a rarement des échecs en vrai, parce qu'il y a toujours des gens pour voir les lives, tu vois. Mais il y a des artistes qu'on programme par exemple à une mauvaise heure et on se rend compte que merde, on aurait peut-être dû le programmer plus tôt, il y aurait eu peut-être plus de monde ou voilà, bref. Et on laisse assez peu de place à nos goûts propres, même si ça joue en fait dans la présélection en fait de certains artistes évidemment, mais vu qu'on a des goûts assez communs en fait au sein du bureau, même si chacun a un peu son style, on réunit quelques artistes, une shortlist très élargie, et puis après on voit aussi en fonction des budgets, des disponibilités, des...
Et du coup, vous êtes combien de programmateurs justement sur le festival ?
On est deux sur Wheel of Green, mais en fait, on a un comité de programmation avec les directeurs et directrices. Sur le festival Yard, il y a aussi donc du coup l'équipe de Yard.
De Yard, ouais.
Donc on travaille conjointement sur la programmation, et sur Peacock Society, on travaille aussi avec l'équipe de Curated By, qui notamment programme le festival d'Ours. C'est une association qu'on a avec eux pour effectivement partager en fait des frais artistiques, ce genre de choses. Voilà.
OK.
Et une fois que le festival est lancé, par curiosité, toi c'est quoi ton rôle à ce moment-là ?
Ouais, mon rôle c'est d'aller dire aux artistes, désolé les gars, vous jouerez pas, il pleut ce soir. Non, je rigole, c'est la partie Wheel of Green dont on parlait tout à l'heure, où il avait plu l'année dernière. Non, mon rôle effectivement c'est d'aller voir en fait chaque scène, chaque artiste, savoir si effectivement tout colle bien, s'ils sont bien reçus, s'il n'y a pas de couac technique, on est en lien permanent avec les scènes, savoir si le soundcheck a bien été effectué, c'est un peu la supervision de tout ce qui se passe au niveau de l'artistique en fait.
C'est un peu de la prod.
Complètement, ouais, il y a des équipes qui sont faites pour ça. On est plus en volant un peu sur le festival pour s'assurer que tout fonctionne à tous les niveaux. C'est hyper important aussi qu'on aille voir autant les agents des artistes que les artistes eux-mêmes, et en fait juste montrer en fait le visage du festival, parce que souvent les artistes ils arrivent, ils voient peut-être le driver à l'aéroport, ils voient la personne qui s'occupe des loges, puis après ils voient l'équipe technique sur les scènes et puis ils repartent et ils n'ont pas forcément vu les visages des organisateurs. Donc c'est important aussi de pouvoir aller à la rencontre et juste leur dire merci d'être là, d'être kiffé bien, bon live.
Oui, faire du relationnel.
Voilà, tout simplement, du RP quoi.
Trop bien. Et bah, je propose qu'on passe au son d'après. Du coup, ton deuxième morceau, tu as décidé de nous ramener Shy Girl.
Shy Girl et Tinashe.
Et Tinashe, exactement.
Ouais, bah, Shy Girl, énorme coup de cœur. On l'a reçu l'année dernière sur le festival. Wheel of Green, elle a effectivement délivré une performance incroyable, et c'était d'ailleurs une petite peine parce qu'en fait on aurait aimé que l'album sorte avant, et qu'en fait tu sais genre en fait c'était peut-être cette année qu'il fallait la booker, parce que là il y a des morceaux incroyables sur l'album. L'album est fou, produit par un de mes producteurs préférés, Sega Bodega, et voilà, on peut se lancer le morceau. Je pense que tout le monde sera assez d'accord pour dire que ce morceau c'est un peu la révolution du R&B. Shy Girl, elle essaye d'amener ça avec une touche de frénésie anglaise. Ça mêle électronique, R&B, un peu futuriste, et c'est hyper classe. Voilà.
De Shy Girl et Tina Shea, c'est le deuxième choix de Paul.
I love you, Shy Girl.
Ah oh ouais, pareil. Et Sega Bodega aussi. Je pense que franchement, ce duo Shy Girl Sega Bodega, c'est vraiment une des meilleures choses qui nous soit arrivée récemment, je pense, musicalement.
Je ne saurais mieux dire, car je suis tellement d'accord, c'était fou cet album concept, incroyable.
Je me rends compte que j'ai surtout écouté en fait Nymph, et j'ai pas trop le Nympho en fait. Je me dis qu'il faut que j'aille écouter ça, parce que par contre le Nymph, je me souviens que je m'étais vraiment pris une grosse bastos.
Ouais.
J'avais pas fait gaffe à la...
Ouais, je sais plus avec quoi je la découvre moi, Shy Girl, mais j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que c'est que cette musique incroyable. C'était sur l'EP Alias, je crois. En fait, la pochette de l'EP, elle fait tellement peur. C'est en mode, qu'est-ce que je vais écouter comme
c'est
musique
ça, je viens de voir, ça fait très peur. C'est une sorte de visage dans un corps. C'est un peu étrange. Hyper efficace, en tout cas. Franchement, j'avoue.
Il y a une touche un peu électronique. Ouais. Une touche très soul, très un peu hyper pop aussi. Il y a un peu toutes les influences dedans.
C'est vrai,
et juste, c'est juste du caramel de Airbnb. De Airbnb, qu'est-ce que je dis. C'est caramel de R&B. Putain, je suis fatigué.
Mais ouais, moi j'étais là l'année dernière à Willow Green quand elle a fait son live. Et j'avoue, j'étais très contente de la voir. Mais c'est pareil, tu vois. Je crois qu'elle passait pas si tard que ça, je pense. Et j'étais un peu en mode, j'aurais aimé la voir tard. Et que tout se déploie, tu sais, genre vraiment comme une nymphe, tu vois, genre un peu à la fin de la journée. Mais c'était chambé. Je pense qu'on va partir sur des questions un peu plus techniques. Moi, j'avais 12 000 questions, j'avoue, un peu techniques. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Je pense dans le rapport à la programmation, je pense qu'il y a aussi tout un truc autour de la place du festival aussi dans l'industrie musicale et tout. Et en fait, là, récemment, je lisais un article de Tsugi qui sortait, je pense, il y a quelques mois, un article au titre un peu alarmant. Qui disait la flambée des prix des cachets va-t-elle tuer les festivals. Et du coup je me disais en fait la flambée des prix des cachets des artistes, c'est un sujet qui est sur la table depuis assez longtemps, je pense depuis la fin de l'ère du disque en gros, puisque a priori c'est comme ça qu'ils vivent leur vie maintenant, c'est en faisant du live. Et du coup je me demandais comment sur les différents festivals sur lesquels tu travailles, comment ça vous impacte vous au quotidien, est-ce que ça vous demande aussi de faire parfois des choix entre par exemple on va programmer telle tête d'affiche et enlever je sais pas 4-5 petits pour pouvoir
ça change énormément de choses. C'est un peu un fléau, mais on sait, enfin tout le monde doit s'adapter à ça.
Ouais.
Effectivement, alors il y a des discussions qui sont en cours entre les hauts décisionnaires
ouais,
de la musique en France et dans le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui va être que de cesse de s'amplifier en fait et d'augmenter. Et en fait, il y a plein de facteurs. Effectivement, quand on passe de budget d'affiche en 2018 qui sont aux alentours de 200 000 euros à aujourd'hui, on nous annonce que des artistes qui seraient potentiellement des têtes d'affiche du festival à, qui avoisinent les 1 million d'euros, c'est vrai qu'on imagine la programmation différemment et qu'en fait nous nos budgets sont pas non plus extensibles et qu'en fait on peut pas répercuter tout ce changement sur le prix du billet. Alors évidemment il y a une inflation dans tout, il y a une inflation dans la technique, il y a une inflation dans tous les prix des matières premières. Enfin, vraiment, les budgets des festivals explosent et c'est très compliqué d'aujourd'hui d'arriver à tenir les cordes budgétaires. Mais la programmation, effectivement, un gros enjeu. Aujourd'hui, on essaie de effectivement, comme tu le disais, on réfléchit parfois la programmation différemment. Il y a plusieurs techniques qui sont soit on choisit un headliner qui va driver la journée, qui va nous ramener potentiellement à 50% de la billetterie.
Ouais.
Et ensuite, on va programmer avec plein de petits et moyens artistes. Ou soit le choix est d'aller chercher 2-3 headliners, mais pas non plus des superstars, qui vont driver en fait une journée et qui ensuite, avec une programmation solide en midliner et newcomer, arriver à solidifier en fait le plateau. C'est un peu la stratégie de Will of Green. On n'est pas des gros payeurs en termes de cachet.
Ouais.
On veut pas jouer cette bataille là. On la trouve, elle est pas saine et elle est pas, on peut pas concurrencer d'autres grands groupes qui produisent d'autres festivals parisiens. Oui. Mais du coup, c'est très compliqué. Et du coup, il y a des choix qui sont faits, notamment sur vraiment des choix de revenir un peu aux sources et se baser plutôt sur la qualité des lives, la qualité des projets artistiques plutôt que la renommée de certains artistes. Voilà, on essaie de recentrer sur les bases et ne pas jouer cette bataille un peu con des prix des cachets. Alors on est obligé d'en subir les conséquences aussi parce que on n'aura pas des têtes d'affiche aussi excitantes que d'autres festivals voisins, mais
bon, on n'est pas d'accord avec ça, mais
nous on se disais en haut, vraiment, moi je trouve que la programmation de Willow Green cette année, elle est exceptionnelle. Mais parce que je pense que c'est.
On est un certain public aussi.
Oui, on est un certain public avec les yeux plus dirigés vers des gens qui montent. Et effectivement, nous, tu vois, on citait dans la programmation, il y a quoi ? Il y a Orelsan, L'Homme Pâle, et après on disait, bon, les autres, en vrai.
Il y a Phoenix aussi. Enfin, tu vois, il y a des grosses têtes d'affiches qu'on voit régulièrement. Mais en fait, franchement, les trois quarts de la programmation de Willow Green, c'est quand même des trucs qui sont plus nichés et tout. Et je me dis aussi, peut-être ça joue aussi en fonction du public de ton festival, quoi.
Complètement, on est sur une cible qui est vraiment plus avide de découvertes, de projets intéressants, de nouveautés et de projets peut-être parfois plus quali. Nous, on mise sur ce côté plus indépendant aussi, enfin le côté de la musique plus indépendante.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Notre choix se porte sur des artistes qui ont plus de pouvoir créatif en fait, tu vois, d'arriver toujours avec des nouveaux projets assez chouettes. Je parle de Yves Tumor par exemple, qui sans cesse renouvelle un peu ses projets musicaux et qui chaque année arrive avec des nouvelles propositions assez folles. Et voilà, des artistes émergents aussi comme Sad Night and Amai dont on parlait tout à l'heure, ou des projets français comme Lazuli, comme la scène rap avec Luther, Winter Zuko. Tout ça, c'est des artistes qui sont émergents, sur
lesquels la piscine
sur qui on mise beaucoup, que le festival en fait a toujours porté et qui a fait en fait de ces artistes là si tu veux des artistes sur lesquels on repose beaucoup, nous, parce qu'on y croit et que c'est aussi ça. C'est des artistes qui apportent.
Est-ce que c'est aussi des artistes qui sont un peu. Qui ont des niches de gens qui les suivent, qui vont venir aussi les voir un truc assez précis où ils sont en mode en fait, on va payer notre billet pour Will of Green parce qu'il y a genre 4 artistes qui ont des petites niches de fans, mais qui sont un peu genre tous les mêmes. Je pense que. Enfin, tu vois, il y a sur Winter Zuko, Lazuli. Et Varnish, je pense que tu retrouves aussi une grappe de gens qui écoutent un peu ce même genre de musique.
Ouais, c'est ça. Après, il faut effectivement faire du ticketing. Hein, on n'a pas le choix. Il y en a 40 000 places à vendre par jour. Donc, il faut pouvoir avoir des artistes qui vendent, se rapprochent du complet. Mais voilà, nous, on a plus cette stratégie d'aller chercher plusieurs artistes, middle et semi-big. Plutôt que d'aller chercher une grosse tête et meubler après avec des artistes un peu moins connus.
Et de mon côté, moi j'ai un peu le sentiment qu'il y a de plus en plus de DJ, alors c'est peut-être aussi des formations professionnelles et un petit biais personnel, mais qu'il y a de plus en plus de DJ dans les line-up de festivals qui sont pas dédiés aux musiques électroniques. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est pas aussi impacté par ça, ce truc de cachet où je me dis, par exemple, l'année dernière, vous avez fait venir Setangana à We Love Green. Petite parenthèse, merci, c'était génial. Mais quand tu vois Setangana qui arrive avec une proposition folle de Seno et de 50 artistes sur scène et tout, tu te dis, bon, j'imagine que le prix du cachet, il doit être très élevé. Donc derrière, comment est-ce que tu répercutes aussi tout ça, quoi? Donc,
Oui, effectivement, Setangana, on a fallu annuler trois fois parce que les coûts de production, c'était très compliqué.
Ouais, j'imagine.
Et même en termes d'un.
Super, hein, merci.
on s'est battu jusqu'au bout pour le garder. On a bien fait parce que c'est, je crois, que l'un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie. Et que les festivaliers qui sont restés aussi tard ont pu admirer ce live assez vraiment monumental. Et du coup, effectivement, il y a on n'est pas trop dans la balance. Tiens, il y a tant de coûts de production de live, du coup, on va mettre plus de DJ. Ouais. Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il y a effectivement une scène qui est dédiée à la musique électronique. On aime aussi faire des beaux closings avec des gros DJ inter qui peuvent vraiment en fait rassembler comme une messe, comme une fête de fin de festival, ce genre de choses. Mais c'est pas non plus. On n'est pas non plus à se dire, bon, il y a eu tant de frais, alors là, on va passer en mode DJ. Non, c'est pas trop la réflexion.
Sûr, ouais.
Mais sur des festivals de musique électronique, par exemple, il y a plus de questions qui se posent, parce que typiquement, si tu accueilles des lives de musique électronique, des scènes ne sont pas adaptées, donc du coup, ça va devoir faire grossir des scènes, ramener des techniciens en plus, alors que en fait, tu pourrais, le public qui vient pour des festivals de musique électronique s'attend globalement à du DJ set, tu vois. Donc, effectivement, la question se pose plus sur des festivals comme ça, mais moins sur des festivals indie comme We Love One.
Très bien, et ben on va passer au son d'après alors. Et du coup, c'est finalement à mon tour de ramener un artiste. Alors pour le coup, moi, avant de parler du morceau que j'ai ramené, en fait, je voudrais revenir sur un truc et ça va être un peu la thématique qu'on va aborder sur cette dernière partie d'émission. C'est un peu le bonheur de la recherche et la trouvaille surtout de nouveaux artistes et de nouvelles découvertes musicales à se mettre sous la dent. Moi, je pense que on est tous les trois autour de cette table dans ce cas-là, quoi. Mais il y a une sorte d'avidité, de toujours écouter plus, de toujours découvrir plus et tout, parce qu'on aime profondément la musique et surtout qu'on est curieux de ce qui se crée de nouveau, tu vois. Mais on en parlait, bon, c'est un peu de mes obsessions personnelles, mais de, tu sais, genre de te dire, genre, il y a toujours plus de trucs, on est dans une ère où il y a toujours plus de médias, toujours plus de trucs à écouter sur SoundCloud, sur Bandcamp, sur Spotify, machin, nan, et avec toutes les propositions, il y a un truc, moi, que je me demande quand t'es programmateur de festival, c'est comment tu ne deviens pas fou avec tout ce que tu dois écouter dans l'année, tu vois.
Ben, en fait, c'est marrant parce que je trie pas mal, donc j'ai mes petits outils où, du coup, je tout ce que je kiffe ou que je trouve intéressant pour les festivals, je les classe.
Okay.
Ben, évidemment, quand j'écoute des trucs dans la rue, juste sur Spotify et tout, j'essaie comme je peux de les classer dans des playlists et tout, mais sinon j'ai mes petits outils. Après je kiffe écouter de la musique en fait, genre tu vois, du matin au soir j'en écoute et genre
c'est, et t'as jamais de période où tu satures?
Non, jamais arrivé, non. Non,
vraiment, genre. Il y a des moments où je suis en mode, je ne sais plus quoi écouter, c'est vraiment.
10 heures de musique par jour, tu vois, je pense, minimum.
Parce que ça représente beaucoup de, on va dire, de tes journées en tant que programmateur.
T'écoutes
de la musique et.
Au boulot, déjà, en fait, on a une enceinte et du coup, je mets de la musique sur les enceintes du bureau juste parce qu'il faut qu'on anime un peu le truc.
Ouais.
Donc, je suis sans cesse en train de travailler et rechercher de nouveaux trucs, des nouvelles releases. Tiens, il y a l'album de machin qui est sorti, on va le mettre, on va l'écouter. Tiens, il y a le nouveau projet. Le remix, machin, il y a un article sur cet album-là, je lis, j'écoute, boum, on met la musique. Il y a des trucs que, du coup, j'ai pas forcément envie de faire chier, d'éclater les oreilles de tout le bureau, donc du coup, je mets mon casque et j'écoute la musique parce que c'est des trucs qui sont plus hardcore ou quoi. Voilà, et puis le matin, c'est juste la musique que je kiffe écouter
plaisir.
Le matin.
Mais c'est chouette ce truc aussi d'écoute collective avec le bureau.
Du coup, je suis un peu le DJ du bureau, tu vois. Donc des fois, je me prends des petites patates sur la gueule.
Voilà,
putain,
genre,
merde, tu fais chier, change. Voilà, donc du coup, toujours en fait, à l'affût des nouvelles sorties ou des choses un peu cool qui se passent.
Je pense que de toute manière, c'est ça, je pense qu'il y a la curiosité profonde qui nous anime dans ce truc-là. Et moi, j'avoue que, j'en parle régulièrement dans le son après, mais j'avoue qu'en ce moment, j'étais un peu dans une phase mais avec la musique. Un peu des fois, j'ai l'impression d'arriver à une espèce de saturation. Plus savoir quoi écouter, plus savoir où aller, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y a un truc qui me rechoppe Et je suis en mode, j'ai 75 onglets ouverts et c'est bon, là je suis partie et j'ai envie d'en parler à la planète entière et tout. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le morceau que je ramène pour cet épisode. En fait, j'étais partie sur complètement autre chose et je réécoutais les morceaux que j'ai kiffé récemment et il y a celui-ci qui est ressorti et j'étais en mode, mais c'est qui eux et pourquoi ils sont là et machin. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Donc, je vous propose qu'on l'écoute avant que j'en parle un peu plus. Mais du coup, le morceau s'appelle Echo et c'est de Araya et c'est édité par Una. On écoute ça et on revient tout de suite. This room, green room, you and your imagination, make it up later. Just the way you like it, we could paint it on paper. Stop to this apocalypse, I'll deal with it later. Vexes and vertices, you keep your energy on the same purpose. I'm wishing it could be a made up, all that you created. Turn cards to causes, I think I'm in my head. I missed the point of the vibe, babe, I needed it to spell it up. Told you better speed up, put me back forward, cause I need to get you better. I should bounce out, baby, I should bounce out, so I can feel us. I was a small surf, had some ceiling, maybe you correct me. Maybe you could correct me. Or maybe you had to see that you couldn't correct me. C'était donc Araya, édité par Una. Le morceau s'appelle Echo, c'est sorti en décembre dernier, en 2023. Et en fait, bon, je sais pas si vous voulez me donner votre avis, par exemple, sur ce morceau qu'on a écouté plus ou moins, parce qu'on était en train de discuter en même temps. Est-ce que vous avez bien
c'est
aimé?
C'est trop bien.
C'est trop cool.
Bon, déjà, on peut noter que tu, voilà, que tu connaissais pas l'artiste.
Non, c'est trop bien.
Et donc...
Bah, je suis ravie. Écoute, moi-même, mais en fait, je sais pas d'où il sort ce truc. J'ai dans mes titres likés. Et en fait, l'autre jour, je réécoute mes titres likés en me disant, mais justement, genre, je vais trouver un truc à ramener pour l'épisode avec Paul où vraiment, genre, ça me parle direct. Et en fait, je réécoute ce morceau et je suis en mode, mais ça, c'est chambé. Et est venu ce fameux moment de Rabbit Hole où je suis en mode, mais il y a écrit trois noms sur ce truc et il y a un truc qui s'appelle Rap Rave. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois qu'ils ont sorti un seul morceau, je suis en mode c'est qui cet artiste? C'est pas vraiment un artiste, en fait c'est un collectif slash label de New York qui organise des soirées, qui lie les deux, voilà, Rap Rave c'est vraiment inscrit dans leur nom. Ils font des soirées où ils ramènent justement tous les genres musicaux qui relient en fait les musiques électroniques et le hip-hop. Et franchement, il y a eu cette émotion presque enfantine de me dire trop bien, je découvre un nouveau truc et trop bien, je découvre une nouvelle scène qui en fait va se raccrocher à une autre scène que je connais déjà, machin. Enfin, tu sais, genre en fait, c'est que des artistes qui collaborent ensemble.
Et j'ai pas compris du coup, le label c'est Araya?
Non, Araya c'est l'artiste. Et en fait, c'est un remix d'un londonien qui s'appelle Una. Et en fait, eux, Rap Rave, ils ont fait la mise en connexion des deux artistes. Et du coup, ils font des soirées, ils ont ce collectif-là, et ils ont sorti une espèce de première compilation de morceaux de remix d'un DJ et producteur qui s'appelle Amadizi, qui est un producteur de Boston, qui est venu à Paris genre en décembre.
Bien sûr, c'est de la frappe.
Et c'est de la frappe. Et donc, du coup, il a fait des remixes pour eux, et j'étais en mode, ouais, tu sais, genre, il y a plein de casques qui se connectent entre eux. Et moi,
c'est break, hyper. Je vous invite à aller écouter, c'est hyper break, c'est très dansant, très underground. Ouais. Et très solaire en même temps, enfin genre il y a un truc un peu genre chaleureux dans la musique, donc c'est une musique très de club.
Bah c'est une musique de club qui est inspirée par vachement par la Miami Bass, par des trucs qui sont très bouncy, très bah quand même très rap, tu vois. Et donc du coup moi c'est ça que j'ai kiffé là, j'ai plongé dans leur Insta, je me suis perdue dans les stories à la une machin. Et tu sais il y a ce sentiment vraiment de de gosse, tu vois, et de retrouver cette curiosité de j'ai envie d'écouter tout ce qu'il y a, dès que tu mets play sur un truc SoundCloud en mode je like, attends, faut que j'ouvre tel onglet et tout. Et du coup, je me demandais si justement, toi, ça t'arrive encore ce genre de moment où tu te perds complètement dans la musique, limite à oublier que t'as des trucs à faire, tu vois.
Bah ouais, grave, parce que du coup, je mixe un petit peu des fois avec des potes sur des soirées et tout. Et du coup, bah, j'essaie toujours de me garder un petit créneau dans la semaine avant les sets. Pour genre juste diguer un peu en mode DJ, pas en mode programmateur, et juste tomber dans les limbes de SoundCloud, de Bandcamp, de toutes les plateformes les plus cheloues du monde, et d'arriver sur des espèces de trucs, tu fais des connexions un peu comme tu viens de dire, en mode putain, ça, lui a fait un truc avec ce label, un truc hyper sombre de Bruxelles, tu te digues, tiens, lui est connecté aussi, il a fait ça, et voilà, et j'adore faire ça, et c'est un de mes kinks, tu vois, genre juste de juste passer du temps sur l'ordi et tomber vraiment dans les méandres d'internet.
C'est précieux, je pense, c'est ce qui te fait être en amour en permanent avec la musique, en fait.
Ouais,
carrément. Découverte.
Et est-ce que du coup t'as un des trucs comme ça, genre qui t'a marqué récemment, où tu t'es dit genre il y a personne qui connaît ça, moi je connais ça maintenant.
Ouah, c'est une bonne il y a un espèce de duo alors ça n'a rien à voir, c'est du rap punk qui s'appelle Paris Texas, et du coup j'ai fait des connexions improbables avec un autre groupe qui s'appelle Aurore avec des neufs d'ailleurs, un pote manage, et en fait je me suis retrouvé à une espèce de diguer, un espèce de festival où ils ont joué ensemble, ils sont montés sur la même scène, j'ai fait putain, genre ça c'est le feu, je veux trop les booker et tout. Et Paris Texas, genre ça a été genre une espèce de découverte en espèce de digant des trucs, parce que je voulais genre vraiment étendre mon oreille sur genre du rap bien dirty, et en fait je suis tombé sur eux, genre c'est vraiment du punk rock rap,
c'est ça.
Et du coup ça a été petite claque de recherche de dig vraiment très personnelle. Ouais.
Et est-ce que justement il y a des artistes comme ça que t'as découvert et tout, et tu t'es dit genre je vais les programmer un jour et ça sera le feu, et du coup est-ce qu'il y en a que t'as réussi à programmer et t'es en mode genre je suis trop fier d'avoir programmé ces gens?
Je sais pas, moi Nati Peluso c'était un peu le Graal, grave.
Ouais.
Ouais. On l'avait invité en 2017 pour sa première date à Paname. On a gardé connexion et en fait elle était trop chaude de vouloir ouvrir avant Gorillaz à Willow Green, où on pensait que ça allait être un peu bancal pour elle, qui remplit des stades en Amérique du Sud, tu vois, et qui était chaude pour en fait juste ouvrir, bon, avant Gorillaz quand même, tu vois, mais parce qu'ils ont fait la tournée aussi ensemble. Mais ouais, Nati à fond, puis je sais pas, il y en a plein, mais Nati, je pense que c'est un peu le kiff perso, quoi.
Et est-ce qu'il y a un ou une artiste que tu rêves de programmer?
Bah Afex, hein. Afex Twin. Genre, je pense,
certainement aux auditeurs qui nous écoutent régulièrement.
On essaie depuis quelques années, et là, moi, je démarre pas. Là. Je le
on
veux,
est tous
quoi,
les ans.
Genre,
tu renvoies le mail.
Je veux le petit logo sur la Tour Eiffel, tu vois. Ouais. Non, bon, on va y arriver. Un jour, on va y arriver.
Si on te demande une anecdote la plus folle peut-être de festival, qu'elle soit perso ou liée à ce que t'as programmé, mais
je sais pas, je partirais vraiment sur un truc très sad and cool. En fait, moi c'était ma première année chez Willow Green, en 2016, et c'est une année où il y avait de la boue. Je sais pas si les gens qui nous écoutent s'en souviennent peut-être. Il avait plu toute la journée, c'était l'enfer. On avait de la boue jusqu'aux genoux, c'était l'enfer et tout. Et LCD Sound System monte sur scène, donc c'était mon groupe préféré de l'époque. Et il commence à jouer et la pluie s'arrête. Et là, juste l'émotion qui déborde. Toutes les équipes du festival se prennent dans les bras, on commence tous à pleurer tous ensemble et tout. Et en fait, genre juste l'émotion. Que juste un rayon de soleil qui traverse la prairie genre à 21h30, tu vois, c'est le début du live. Waouh, c'est bon. On est safe pour quelques heures, mais on est safe.
Ouais, y a quelque chose.
Et
qui
juste le live tant attendu du headliner commence, et on fond tous en larmes, tous dans les bras chacun. C'était trop trop beau. Voilà.
Trop beau.
C'était ma petite anecdote.
Trop bien.
Bah, c'est trop bien. Je pense qu'on est pas mal.
Ouais, c'est une bonne conclusion, non ?
Ah, je trouve ça une très belle conclusion.
Bah, merci beaucoup, Paul, d'être venu jusqu'à nous, d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas, du coup, à aller à ces 4 festivals cet été, si vous avez les moyens, mais sinon, choisissez en fonction de la meilleure programmation, sachant que ça va être difficile.
Ah ouais, c'est difficile de choisir, hein, franchement, tout est...
Il y en a pour tous les goûts.
Ouais. Oui, c'est ça.
C'est ça, je veux dire, quoi.
Ouais. Voilà.
Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était super cool de partager ce moment et puis d'avoir découvert des nouveaux morceaux.
Paul, juste avant de se quitter, nous on a nos petites recommandations de fin à faire, donc Clément, je te laisse le champ libre.
Chers auditeurs,
Vous savez désormais que les 4 morceaux qu'on a écoutés tous ensemble, vous pouvez les retrouver dans la playlist du son d'après, disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, YouTube, Apple et Spotify. Donc bienvenue aux morceaux de Paul dans notre playlist. Vous pouvez aussi retrouver tous les artistes, les noms qu'on aura pu écorcher dans les notes du podcast. Il y aura certainement un petit Google Doc parce qu'on a cité beaucoup de monde aujourd'hui. Si vous nous aimez, vous pouvez aussi nous aider à propager ce podcast en mettant des commentaires, en mettant 5 étoiles sur les applications, que ça soit sur Spotify, sur Apple Music et sur toutes les applications de podcast, hein, oui. Podcast Addict, exactement, tout ça. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et désormais TikTok, où on partage des vidéos de qualité avec du son en plus. C'est vraiment l'idée, c'est de compléter un petit peu tout ce qu'on vous propose semaine après semaine. Pour conclure, on a toujours la petite dernière question. C'est quoi le son d'après cet enregistrement? Là, celui que tu veux envie de te mettre dans les oreilles en nous quittant.
Je vais Shy. Parce que du coup, là, juste après, là, je vais aux remises des prix des flammes.
Ah oui, yes.
Et Shy va performer. Je suis trop impatient, mec.
Trop bien. Du coup, tu vas te mettre dans le mood.
Ok. Je vais me mettre dans quel le morceau direct. De Shy
Joli Garce.
Allez.
Parfait.
Incroyable.
C'est une très belle conclusion.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Paul.
Merci à toi. Et nous, Clément, on se dit
à dans deux semaines.
Je suis dans la suite et pas n'importe laquelle. Présidentielle et non personne n'a ken là. Jolie, 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 jolie go. Je connais le SUV qui souhaiterait donner le go. Un peu saoulé, je suis dans l'ultimat. Maman est fière, donc le reste m'en tape. Il pense à WAM, mais je suis trop loin dans le top. Merci au steak qui fait gonfler l'ultimat. J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon plat sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le scène, j'ignore ces pétasses. Pop dans un show quand t'es jolie garce. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai charge, j'suis dans le viseur du Ganté. J'suis dans le vento. Tanto, tanto, tanto. On est des jolis, jolis, jolis go. Dis-moi qui pourrait me dompter. J'ai charge, j'suis dans le viseur du Ganté.